Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now.
Bonjour, je m'appelle Jessica. I'm your host, and I'm very excited to welcome you on French Voices, episode 6. This is a bonus episode. It is my Christmas gift to you. As a passionate French teacher, my goal is to help you improve your French listening skills with this very special series of interviews. I've designed a complete set of accompanying material with love just for you. You can download the free files from the show notes at frenchvoicespodcast.com/episode 6. There is a transcription, a specific vocab list, as well as comprehension questions organized into two levels of difficulty, so you can do some French homework over your Christmas break. France has a world-famous, incredible variety of historical sites and monuments that testify of the old, vivid past of this beautiful country. In this episode, you will discover a former French province called Le Perche and the importance of its historical heritage. Joël Lenoir, our guest speaker, lives in Bellem, a small town in the Normandy region and in Le Perche territory. He is passionate and very knowledgeable about the historical legacy of his hometown. He is also the president of Bellem Heritage Association, l'Association du patrimoine de Bellem, and as such, he is very involved in the restoration project of Le Porche de Bellem, which used to be the main gate to the small town. So listen to find out what the problem with the porch is and also how you may be able to help save this historical building. Here are a few selected words to help you with your listening of this interview. Don't forget that there is a lot more detailed vocab list available in the show notes of the episode. Feel free to repeat the following words after me if you find this is helpful for you. The key word of this episode certainly has to be le patrimoine. Patrimoine, that's the heritage, can be cultural, historical, even the genetic heritage, patrimoine. Un comté, comté is an earldom, a county. And the person who is the count, the earl, the nobleman, is un comte. Un comte. You probably know of Le Comte de Monte Cristo by Alexandre Dumas. A potato, une pomme de terre. But we have a slang word for it, which may be the equivalent of like a spud. It's une patate. Une patate. There is an adjective that describes an irregular shape, something that has the shape of a potato. We use patatoïdal. Patatoïdal. I find this word very funny. To desalinize, to remove the salt. Well, the salt is le sel. To salt a dish is salé. And so to desalinize is dessaler. Dessaler. But also dessaliniser, dessaliniser. A yard sale or a garage sale is a vide grenier, un vide grenier. Un grenier is a granary, but also an attic. A vide is empty, so when you want to empty your attic, get rid of a lot of stuff that is cluttering your house, you organize un vide grenier. Joël Lenoir, bonjour.
Bonjour Jessica.
Vous êtes née et avez grandi et vivez toujours dans une région de France qui s'appelle Le Perche, à ne pas confondre avec La Perche. Et donc, qu'est-ce que Le Perche? Est-ce que c'est un nom de pays, une province?
Eh bien, C'est en se référant à l'histoire de France qu'on répondra le plus complètement et de manière la plus juste à cette question. Le Perche a été une province française assez célèbre dans l'histoire de France jusque à la Révolution. Et en 1810 environ, après qu'on ait créé les départements, la province du Perche a disparu pour réapparaître sous une autre forme en 1995, date à laquelle a été créé le parc régional naturel du Perche. On a trouvé le besoin de reconstituer ce territoire, puisqu'en fait c'est un territoire, parce qu'il a gardé une grande homogénéité au plan de l'architecture, au plan des paysages et au plan du type d'activité économique, bien qu'il ait été séparé entre quatre départements et trois régions administratives françaises. Et cette réapparition s'est faite à l'initiative des collectivités qui ont milité pour créer une structure publique qui s'appelle un parc régional naturel.
De quelles régions et départements s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez situer le Perche sur la carte de France un peu pour nos auditeurs ?
Alors, la plus grande partie du Perche se situe dans le département de l'Orne, qui appartient à la région de Basse-Normandie. Le deuxième département en superficie qui contient une partie du Perche, c'est l'Eure-et-Loire, qui se situe dans la région centre. La troisième, c'est le département de la Sarthe, qui se situe dans les régions des Pays de la Loire. Et le dernier, c'est le département du Loir-et-Cher, qui se situe également dans la région centre.
Voilà, donc centre, ouest. Oui. On est à combien
On est
de Paris
à 180 km de Paris. Ce territoire a la forme d'une patate, on va dire. Elle est patatoïdale. En dimension, n'excède pas 50 km de diamètre de la forme patatoïdale.
D'accord. Vous avez parlé donc d'architecture et de paysages qui sont assez homogènes. En fait, quels traits caractéristiques donnent au Perche son identité locale ? Ça peut être aussi peut-être au niveau des produits du terroir, du folklore ou...
Alors, sur le plan des caractéristiques qui distinguent le Perche des autres régions, c'est d'abord un phénomène géologique puisque... La géologie a conduit à ce qu'il y ait des plis, des couches géologiques qui ont conduit à faire des collines. Et le Perche se traduit, est le plus connu sous l'expression « les collines du Perche ». Ensuite, la deuxième caractéristique correspond sans doute au type d'architecture et de manière de construire les maisons. Nous avons eu l'habitude ici d'utiliser des produits locaux depuis très longtemps pour faire les façades qui étaient un mélange de chaux et de sable. Et nous avons ainsi des façades qui se situent entre le blanc rosé jusqu'au jaune ocre en fonction du sable utilisé, ce qui fait que nous avons des façades qui ressemblent plutôt à ce qu'on va trouver en Toscane ou dans le sud de la France qu'en Normandie. Et puis nous avons également pour terminer des tuiles d'argile qui sont d'une couleur brun-rouge qui sont très caractéristiques et l'alliance du brun-rouge sur le toit avec une façade jaune ou rosée, c'est très beau. Donc voilà en fait des points très caractéristiques visuels. Maintenant, si on poursuit la question, on peut dire qu'il y a d'autres traits caractéristiques du Perche, par exemple des traces historiques extrêmement nombreuses et présentes, dont les plus significatives sont des manoirs. On a construit, après la guerre de Cent Ans, plus de 500 manoirs sur ce territoire de l'ancienne province du Perche. Il en reste encore la moitié. Donc, wow. 500 manoirs sur un territoire qui fait 50 km de diamètre, vous voyez que c'est
Oui, ça fait
extrêmement
beaucoup.
dense et assez exceptionnelle.
Et ils sont toujours habités donc par des particuliers ou beaucoup sont à l'abandon,
Non,
ces manoirs?
alors jusque à la création du parc régional, la plupart de ces manoirs avaient été donnés aux fermiers qui exploitaient les terres autour des manoirs. Et ça, ce transfert est intervenu à la Révolution française. Et jusque en 1990-95, eh bien, c'était les fermiers qui utilisaient ces locaux dans un usage domestique et agricole. Et lorsque le parc a été constitué, il est arrivé beaucoup d'urbains qui ont découvert cette région, ont été fascinés par la qualité de ces bâtiments qui étaient extrêmement bien conservés depuis le XVIe siècle et qui on les ont petit à petit achetés pour les restaurer. Et nous avons aujourd'hui des propriétés de toute beauté qui malheureusement sont rarement ouvertes, mais à chaque journée du patrimoine à la mi-septembre, ces maisons sont ouvertes et on découvre des choses assez exceptionnelles.
Oui, c'était il y a 2 semaines à l'heure où nous enregistrons ces journées du patrimoine. Donc c'est un week-end où on peut en général visiter des musées et aussi des châteaux, des propriétés privées qui ne sont pas forcément ouverts au public pendant le reste de l'année. Donc effectivement, les journées du patrimoine dans le Perche, ça doit être une région qui est très riche historiquement et au niveau du patrimoine alors.
Tout à fait. Et cette année, les journées de patrimoine ont été extrêmement visitées par la population dans le Perche et encore plus à Belém, puisque
Alors justement, oui, pardon, Belém, c'est
voilà.
la ville où vous habitez.
Belém, c'est la ville où nous habitons, effectivement, et qui a été, dans l'histoire, une des trois capitales du Perche, puisque Belém était place de justice royale jusqu'à la Révolution française. Les États généraux, au moment de la Révolution, pour la province du Perche, se sont tenus à Belém. Donc, ce qui montre que cette ville a un passé politique important pour la province. Et cette primauté a été disputée par deux autres villes, Nogent-le-Rotrou, qui se situe donc dans le département de l'Eure-et-Loir que j'ai cité tout à l'heure, qui a été aussi capitale de la province parce que les comtes du Perche y avaient leur château. Et il
Oui, le
s'agit
château de Nogent
du
est
château de
célèbre.
Nogent qui appartenait à la famille des Rotrou, célèbre dans l'histoire de France pour ceux qui aiment avoir des anecdotes. On dit que Roland, qui soufflait dans son olifant au retour d'une croisade pour prévenir le roi qu'une attaque allait survenir, eh bien, Roland était un Rotrou, donc un comte du Perche. Alors, ce n'est pas attesté, mais c'est une légende qui a la vie dure. La troisième ville qui se revendique comme capitale du Perche, c'est Mortagne-au-Perche, où le roi de France a transféré le lieu du comté du Perche pour mettre fin à la rivalité entre ces trois villes, Belém, Nogent-le-Rotrou et Mortagne-au-Perche. Et Mortagne est restée la ville qui prime parce qu'elle est aujourd'hui sous-préfecture et donc abrite les principaux services publics de la région.
Et Belém elle-même a combien d'habitants aujourd'hui?
Belém est une petite ville puisque, en termes d'état civil, nous avons 1500 habitants. Mais cette ville touche deux autres petites villes. L'une s'appelle Saint-Martin-du-Vieux-Belém et l'autre Serigny. Et ces trois villes qui se touchent ensemble représentent un peu plus de 3000 habitants. Donc on peut dire que l'agglomération de Belém représente 3000 habitants, ce qui reste Une petite ville, hein, très petite ville.
Petite ville, oui. Alors, vous êtes président de l'association de Belém Patrimoine et vous êtes cité dans un article du journal L'Ouest qui est paru en mars de cette année, mars 2014, et qui s'intitule Belém Patrimoine se mobilise pour sauver le Porsche.
En
Le
effet, nous
Porsche, hein,
avons.
pas le perche. Qu'est-ce que
Le Porsche,
c'est
oui.
Oui, vous pouvez expliquer ce que c'est que ce projet et où il en est aujourd'hui?
Oui, donc nous avons de très nombreuses traces de l'histoire dans la ville de Belém, et notamment un Porsche médiéval qui a été construit entre le XIIe et le XIVe siècle, qui était l'entrée d'une forteresse militaire, puisque Belém a été une ville très importante sur le plan militaire, parce que située à un carrefour de deux routes, l'une allant de Paris au Mont-Saint-Michel et l'autre allant de Rouen à Tours. Ça faisait donc de cette ville un lieu stratégique où on pouvait surveiller l'arrivée d'ennemis potentiels par les chemins. Donc,
La ville est, oh, excusez-moi, mais la ville est en haut d'une colline,
c'est
alors,
cela.
pour un... D'accord.
C'est un point d'observation majeur parce que situé sur un éperon rocheux.
D'accord.
Donc, il y avait là une citadelle militaire fort importante. Pour en témoigner, nous savons que le roi Louis IX Saint-Louis est venu avec sa mère Blanche de Castille faire le siège de la ville de Belém en 1229, et l'armée du roi a mis 3 mois pour prendre la ville, tellement les fortifications étaient importantes. Ce passé prestigieux a encore des traces très lisibles dans les pierres, et nous avons pu constater que le Porsche, qui en est donc l'entrée avec la trace encore très vivante d'un pont-levis et d'une herse de protection, se dégrade progressivement et continuellement à cause de l'action du sel. Pourquoi le sel? Eh bien, parce que au Moyen Âge, le sel était le produit unique qui permettait de conserver les aliments. À cette époque, on ne connaissait ni l'électricité, encore moins le congélateur. Donc, on salait le porc, notamment, et d'autres viandes, pour permettre de conserver ces aliments pendant de nombreux mois. Donc, le sel était un bien précieux dont la distribution était extrêmement bien contrôlée. D'autant plus que le sel était aussi l'assiette, si je puis dire, d'un impôt royal qui s'appelle la gabelle. Donc, pour toutes ces raisons, on protégeait le sel dans des salles qui étaient des salles de pierre. Dans le cas d'espèce, à Belém, on avait consacré une partie du porche au stockage du sel, avec en dessous de ces salles où étaient conserver le sel, un magasin où on distribuait le sel. La difficulté est que, comme ce stockage a duré des siècles, eh bien le sel est entré dans la pierre. Et l'action du sel associé à l'humidité conduit à ce que les cristaux de pierre se rompent, et nous avons une pierre dure qui devient du sable. Donc, si vous passez sous le porche de Belém, vous verrez que nous avons des pierres qui sont comme rongées. Et
Donc c'est
cette action est
l'érosion par le
continue.
sel.
Ce n'est pas une action qui a eu lieu et qui s'est interrompue. Elle se poursuit de manière pérenne. C'est donc dire que il a été établi que si nous ne faisons rien, un jour, il faudra interdire le passage de la population sous le porche parce que ce sera dangereux. Et ce serait évidemment dramatique pour les Belémois que de devoir renoncer à leur promenade sous le principal monument de la ville qui témoigne d'un passé prestigieux. Donc l'association qui a été créée maintenant il y a 3 ans s'est donné comme objectif de mener avec la ville une campagne de désalinisation du Porche, c'est-à-dire d'application de tissus qu'on appelle des cataplasmes, dont le but est d'absorber une partie du sel qui est dans la pierre pour faire descendre le taux de salinité. Et lorsque on aura descendu en dessous d'un certain seuil, eh bien, cette réaction chimique va s'interrompre et alors on pourra remplacer les pierres qui sont par trop abîmées par de nouvelles pierres pour redonner à la fois la solidité et le caractère que ce beau monument a toujours eu.
Superbe. Donc, il a besoin d'abord d'un traitement et puis ensuite d'une petite rénovation, en fait.
Voilà. Et tout ça va représenter 1,5 million d'euros de
Oh, c'est
travaux
beaucoup.
qui vont se passer sur 10 ans. Donc vous voyez que le défi est immense et qu'il nous faut beaucoup d'énergie pour associer tous ceux qui veulent bien nous aider à participer au sauvetage de ce monument. D'ailleurs, il existe un lien sur Internet où toute personne qui porte un intérêt à la ville peut se manifester, y compris en faisant un don à une organisation qui collecte au plan national ces dons, qui s'appelle la Fondation du patrimoine.
Ah ben alors je mettrai ce lien dans les show notes de l'épisode. Donc si vous êtes amoureux du patrimoine français et que vous souhaitez faire un don pour aider à financer le projet de sauvetage du Porche de Bellême en Normandie, vous pourrez le faire donc sur Internet. Je
C'est très
mettrai les
gentil,
détails, Joël, d'accord?
ça me fait très plaisir.
J'espère que vous aurez quelques réponses, ça pourrait être super. Mais alors en ce moment, vous en êtes où dans
Eh bien, pour
la
l'instant, ce
collecte des
qui a
fonds?
été fait, ce sont des sondages qui ont permis de qualifier chacune des zones du monument en taux de salinité. Et à partir de ces sondages, va commencer en janvier 2015 l'application des cataplasmes qui sont donc destinés à absorber le sel progressivement et on va renouveler ces cataplasmes pendant tout le temps qui sera nécessaire à faire tomber le taux de salinité en dessous du seuil où la réaction chimique se déclenche.
À part la collecte des dons via Internet, est-ce qu'il y a d'autres formes de mobilisation qui se sont mises en place pour la restauration de ce porche?
Oui, nous avons essayé de faire preuve d'imagination. Notre première action, pas la première, mais l'une des premières, a été d'essayer de trouver auprès des commerçants de la ville des alliés pour faire partager et faire comprendre cette cause de la restauration du porche. Et donc, nous avons reçu un écho extrêmement positif de l'association des commerçants qui s'appelle Bellem Boutique, qui regroupe 60 commerçants de la ville de Bellem. Vous voyez que bien que l'agglomération soit petite, nous avons de très nombreux commerçants et fort dynamiques.
Super.
Et donc 25 d'entre eux ont accepté de nous rejoindre en signant une convention avec la Fondation du patrimoine pour faire ce qu'on appelle une opération produit-partage. C'est-à-dire que chacun d'entre eux a choisi un produit particulier. L'un a fait un éclair au beurre salé, un autre a fait une tablette de chocolat, un troisième a fait un pâté qui s'appelle le porcheron. Un assureur, à chaque fois qu'il signe un contrat d'un type particulier d'assurance, une autre. Une teinturerie à chaque fois qu'elle fait un nettoyage de couette, enfin bref, chacun dans son métier, quoi, va
Oui.
reverser pour le sauvetage du Porsche une partie du prix de vente. Et cette opération fait l'objet d'une communication, à tel point que nous avons eu le plaisir de voir la Fondation nationale du patrimoine tenir son congrès le 19 septembre dernier, donc la veille des Journées du patrimoine à Belém, qui a voulu marquer, je dirais, l'intérêt qu'elle a trouvé dans le fait que ce soit une association de 25 commerçants qui se mobilise pour une action majeure et exemplaire en matière de restauration du patrimoine. Voilà un exemple fort probant. Il y en a d'autres. Nous venons d'éditer un guide de visite du patrimoine de la ville de Belém, qui a été sponsorisé par des entreprises locales et qui est vendu 2 € l'exemplaire. Nous distribuons chez tous les commerçants ce guide de visite. Comme nous avons beaucoup de touristes qui passent l'été, nous avons déjà vendu plus de 1000 exemplaires et ça va se poursuivre de manière continue. Nous faisons en juin de l'année prochaine un vide-grenier qui sera alimenté par ce que les Belémois veulent bien nous donner, comme vieux meubles, comme bibelots, objets de brocante, vieux livres. Et l'intégralité du produit de la vente alimente aussi le financement de la restauration du porche.
Bon, tout ça c'est très bien, je vois que vous avez vraiment été créatif effectivement dans vos idées. Laissez-moi une trentaine d'heures, le temps que je puisse aller à l'aéroport et arriver en France. Les éclairs au beurre salé et le chocolat, ça m'intéresse beaucoup, donc je vais venir vous aider en attendant. Je vous souhaite une bonne chance pour ce projet de restauration. J'espère qu'il pourra aboutir et dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Et on touche à la fin de notre entretien. Donc, je vous remercie beaucoup, Joël, d'avoir fait partager le côté historique de la région du Perche et aussi de la ville de Belém.
Merci Jessica, c'était avec plaisir.
Did you enjoy the journey into French history? What did you think? And also, how did you go with your French? I'm actually going to give you one last expression to add to your French vocab for today. In this episode, you've learned about le Perche, the region. You've learned about le Porche, the entrance gate. Now, la perche. Une perche is a long pole, or a rod, if we are talking about fishing. Tendre la perche à quelqu'un means to throw someone a line, to give someone a helping hand, to make it easier for someone. Tendre la perche à quelqu'un. So here you go. Vous pouvez tendre la perche à l'association Belém Patrimoine pour aider à sauver le porche dans le perche. You can give l'association Belém Patrimoine a helping hand to help save the porch in le perche region. If you have any question or suggestion on how I can help you improve your learning experience, just email me at feedback@frenchvoicespodcast.com and I will make sure I reply to you. Your feedbacks and reviews of the podcast are very welcome and they can go a long way in helping spread the word so it can benefit other students. In the next episode, I will announce the winner of a French lesson with me. So you still have until the end of 2014 to submit a review on iTunes and enter the draw. A special merci to Peter, who's been my field reporter and also who's put me in touch with Joël. Thanks a lot. See you in the next episode of French Voices and Joyeux Noël!